te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. The first time I caught you out again, you spent your time in a little cubicle, in a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur les ondes de CKIA, c'est le 88.3. Et puis aujourd'hui, bien comme à tous les lundis 17h, eh bien c'est le moment pour tous de nous retrouver en tête à tête et en parlant de jeu, c'est-à-dire sur les ondes de CKIA. C'est l'émission Puissance Maximale, au micro Sébastien Léonard. Et comme à chaque semaine, eh bien je suis entouré de tout ce qui se fait de plus geek sur la capitale nationale, c'est-à-dire Québec. J'ai dénommé, en commençant dans l'ordre de droite à gauche, parce que je sais qu'ils sont tout impatients de pouvoir vous expliquer de quoi ils vont nous parler aujourd'hui. Il s'agit de Christian Lacroix. Bonjour Christian.
Oui, salut Sébastien.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais parler un peu pour les rôlistes, les amateurs de jeux de rôle, des jeux de substitution, parce que c'est difficile d'avoir des fois des bons groupes, tout ça, d'avoir des parties qui durent longtemps. Donc, on va parler d'autres types de jeux qui peuvent combler ce besoin.
Pour toutes les personnes, finalement, qui n'ont pas la possibilité de jouer à des jeux de rôle, les pauvres, voilà. Ils sont tellement tristes. Ensuite, nous recevons évidemment Vincent Langlois. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien. Alors moi, aujourd'hui, je vais parler du jeu de Nintendo DS qui est mon coach personnel, j'améliore mon anglais.
Excellent. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, nous allons rencontrer Kevin Labrec. Kevin, qui est notre spécialiste des grandeurs nature et puis qui a toujours un bagout extraordinaire puisqu'il n'arrête jamais de parler une seule seconde. C'est encore pire que Christian.
C'est pour ça qu'on ne l'invite pas en studio au début de l'émission.
En fait, il aurait pu vous dire de quoi il va parler, mais il n'est pas là pour l'instant. Donc, on va tout simplement vous laisser la surprise pour tout à l'heure. Puis, comme à chaque début d'émission, eh bien maintenant, c'est devenu quasiment une tradition ici à l'émission. On reçoit Mathieu Place qui nous parle de l'actualité ludique de la semaine, c'est-à-dire celle qui vient de passer, pas celle qui s'en vient encore qu'avec sa petite boule de sa boule magique, il serait peut-être capable de le faire.
Oui, effectivement, ça serait bien. Hein? Avec Internet, on ne sait jamais, on pourrait peut-être avoir des connexions avec le futur, mais cette semaine, je vais devoir me contenter de parler de la dernière semaine qui s'est déroulée. En fait, des nouveautés en termes de jeux vidéo. Par exemple, on a un nouveau jeu vidéo qui est inspiré de Guitar Hero, dont on parle beaucoup dans la chronique actualité, parce que c'est un jeu de l'heure qui plaît à beaucoup de générations, à un très large public. Alors, il s'agit ici, au lieu d'avoir un groupe de rock, il s'agit d'être un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui est appelé à jouer du bâton là, pour pouvoir diriger son orchestre. Alors, c'est un jeu qui est encore en préparation, encore en test. Ça va s'appeler UBS Virtual Maestro. Et bon, ça va peut-être entrer sur le marché d'ici quelques semaines. Ils l'ont testé dans des lieux où il y a beaucoup d'amateurs de musique classique. En général, la réaction est bonne, c'est-à-dire que les gens sont curieux de voir ce jeu-là, mais bizarrement, ils ont beaucoup de commentaires négatifs par rapport à, au fait que ce soit très simple comme jeu. Tu sais, évidemment, quand on est en face d'un jeu...
de battre des bras et puis de faire semblant que tu es devant finalement un orchestre philharmonique,
oui,
philharmonique, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Et puis bon, évidemment, pas besoin d'être virtuose pour jouer à ça. Et puis on dirait que ça tique plusieurs amateurs de musique classique qui considèrent que la musique classique doit être prise au sérieux de manière générale. Justement, ils ont eu des altercations avec une vieille dame de 77 ans, Mary Willie Ross de Livermore en Californie, qui était vraiment pas d'accord avec la technique, avec le jeu en tant que tel. Mais bon, toujours est-il que le jeu va être disponible sur ordinateur bientôt. Alors, avis aux intéressés de musique classique ou à ceux qui veulent étendre leur expérience Guitar Hero à ce genre musical.
C'est quand même assez intéressant de voir qu'on a invité une vieille dame à venir faire un playtest sur un jeu ordinateur.
Ben oui.
Est-ce que c'est un jeu qui va être disponible sur la Wii?
Non, j'ai l'impression, ben, selon mes informations, c'est vraiment un jeu qui va être disponible sur PC. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de détails, mais c'est vraiment quelque chose qui va être disponible sur le PC et sur la Wii. Vous avez la Wii aussi, là, mais sur PC, vous allez pouvoir acheter une manette, un espèce de système qui va pouvoir se brancher sur le PC.
Qui s'appellera une PC Mote et puis une...
Peut-être, je sais pas, PC Stick, je sais pas quoi.
Et l'avenir, c'est tellement beau. Est-ce que tu as une deuxième nouvelle à nous annoncer?
Oui, deuxième nouvelle. En fait, c'est des actualités qui sont plus ou moins actuelles, je m'en excuse. Tout le monde qui connaît de près ou de loin les jeux de rôle, bon, je m'étends un peu là, mais peut-être que vous connaissez Steve Jackson si vous aimez les jeux de rôle qui sont axés par exemple sur des cartes, beaucoup de cartes. C'est un créateur de jeux américain. Et puis, bon, là, j'ai cherché un petit peu sur Internet et je me suis rendu compte qu'il était en plein milieu d'une conspiracy theory. Alors, c'est une théorie de conspiration et évidemment, ça concerne le 11 septembre. Alors, paraîtrait-il que Steve Jackson, dans un jeu qu'il aurait réalisé en 1990 qui s'appelle Illuminati,
oui,
BBS, qui est,
oui,
toujours disponible sur le marché pour les intéressés.
Un grand classique
intéressés.
Des jeux de cartes. Oui,
oui, exactement. Eh bien, ce jeu-là aurait prédit le 11 septembre. Évidemment, je pense que c'est un jeu sur les catastrophes et puis une des catastrophes, en fait, deux, trois catastrophes concernent des événements qui ressemblent bizarrement au 11 septembre. Alors, on a des buildings qui sont en train d'exploser, vous avez le Pentagone qui est en train de brûler et puis vous avez toutes sortes de phénomènes comme ça qui rappellent le 11 septembre. Alors, Christian, justement, je pense que tu connais.
Oui, ben moi, j'ai le jeu en question.
Oui.
J'ai les extensions, tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que le but du jeu, là, c'est qu'on dirige une conspiration, là, les maîtres du monde secrets, mm-hmm, et on essaie, là, il y a les Boy Scouts là-dedans qui sont impliqués. évidemment, c'est très humoristique, tout ça, on le devine, là.
Oui, okay.
Mais le but, donc, c'est d'avoir des méga box, ça, c'est comme des, plus que des billions de dollars, là, c'est bref.
Okay.
Et donc, ça prend une autre tournure, là, tu sais, parce que si on regarde les vraies théories par rapport au 11 septembre, mm-hmm, ça tourne autour de ça, hein, les maîtres secrets du monde, là, ça serait fait par, bon, les Américains.
Et puis on implique la fameuse pyramide sur le 1$ au travers de tout ça. Cette pyramide-là se trouve dans le jeu, paraît-il.
Oui, c'est le symbole du jeu.
Et justement, en 1990, ils ont eu un problème avec le FBI. Là, ça devient sérieux. Là, c'est pas juste des rumeurs. Le FBI est vraiment entré chez eux. Ils ont pris plein de matériel informatique, plein de documents pour supposément parce qu'ils étaient impliqués dans des activités de hacker. Mais bon, ça s'est réalisé.
Oui, ben moi, encore là, j'ai réussi à mettre la main sur une copie de Cyberpunk, mm-hmm, et c'est drôle parce qu'ils ont mis une espèce de logo sur la couverture, disait celui qui a été saisi par la CIA.
C'est devenu
un
argument marketing.
Ils ont fait buster et puis ils ont été obligés de le réécrire parce qu'ils ont tout saisi le matériel, ils ont perdu des mois de travail. Alors c'était vraiment
c'était fondé sur rien. Éventuellement, le juge qui s'est occupé de l'affaire a donné 50 000 $ de compensation à la compagnie parce que c'était non fondé là, comme attaque.
Oui. Mais Steve Jackson, à la fin, il était quand même content parce que ça a fait parler énormément. Ça a moussé, hein, le jeu.
Penses-tu qu'il s'agit réellement d'un coup marketing?
Je pense pas, non.
C'est
je pense
difficile
qu'il a
à gérer ça.
Il a tourné ça en coup de marketing, mais il était pas content au début. Là,
oui, exactement. Mais,
c'est quand même bizarre de faire ressortir le 11 septembre à travers Illuminati qui est sorti quand même en 1990. C'est une période où Bon, ça n'a pas tellement rapport, là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est réellement un coup de marketing. Ça fait parler du jeu, une fois de plus, Illuminati, là, que tout le monde avait oublié. Mm-hmm. Pas tous, on va dire que les grands joueurs continuent ouais. encore à apprécier le jeu, là, mais quand même, ça paraît bizarre.
Oui, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais les informations que j'ai trouvées sur Internet, c'était vraiment des conspirationnistes. Là. C'était des gens qui travaillaient à essayer de résoudre le mystère du 11 septembre en lisant toutes sortes de livres, comment ils s'appellent, le fameux
le secret,
en tout cas
le secret, ouais. Le fameux jeu, le fameux livre sans intérêt.
Enfin, vous avez plein d'informations et si vous voulez en savoir plus sur le 11 septembre, procurez-vous le jeu Illuminati BBS.
C'est ça, de toute façon, les fanatiques de conspiration, ils vont avoir partout, hein. Puis si tu fais un jeu avec plein de dessins, de cartes sur des conspirations, tôt ou tard, tu vas frapper des trucs qu'on voit dans la vraie vie. Donc c'est immanquable.
C'est quand même fou, hein, quand même, comme c'est apprécié, cette histoire de conspiration là.
C'est
ça revient constamment, ça nous fait plaisir, c'est comme les ovnis. C'est un grand complot universel.
C'est la culture maintenant.
Ouais. C'est mystérieux, puis en plus, c'est que ça permet d'expliquer des choses qui sont très, très, très compliquées en deux, trois phrases. Ben, c'est une conspiration, c'est George Bush, et voilà, c'est réglé.
Waouh, c'est super. Dis-moi, est-ce que tu as d'autres nouvelles? Moi, j'en ai une peut-être pour toi, là, mais c'est vraiment en passant très rapidement. En fait, c'est un sondage qui a été fait sur les parents américains qui s'inquiètent toujours de ce qui peut se passer avec leurs enfants et puis qui se posent la question, entre autres, de savoir qu'est-ce qui est le plus perturbant pour un parent américain, donc des États-Unis, entre avoir des jeux vidéo qui sont plutôt à tendance violente ou des jeux vidéo qui sont à tendance sexuelle, d'après vous.
Sexuel.
Ah oui, de très, très, très loin, en fait. C'est 70% des parents qui s'inquiètent vraiment de la présence de scènes de nudité ou autres mouvements un petit peu scabreux qui pourraient se retrouver dans les jeux vidéo, bien après, évidemment, la violence. Or, bien évidemment, c'est culturel, parce que le même sondage avait été fait en Suède, et devinez quoi, c'est exactement l'inverse.
Ils font des sondages comme ça aussi entre le rest of Canada, en Ontario, et puis au Québec, et puis par rapport au film, et puis c'est effectivement les mêmes statistiques. C'est des trucs culturels, j'imagine. Mais...
Non, tu penses?
Oui, ben... je te jure. J'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés au Grand Theft Auto 4, dont je parle souvent ici, il va sortir le 29 avril 2008. Moi-même, j'ai très hâte de sa sortie pour voir enfin à quoi ça va ressembler. Eh bien, si vous vouliez être les premiers à vous procurer la copie, si vous vouliez être les premiers en file au magasin pour pouvoir l'acheter, eh bien, il est trop tard parce qu'il y en a qui sont déjà deux semaines à l'avance au pied de leur boutique de jeux vidéo.
C'est une plaisanterie.
Oui, non, ben c'est réel. En fait, c'est en Suède. En Suède, ils s'en passent toutes sortes là-bas. Eh bien, à cet endroit-là, eh bien, il y a des gens qui attendent de pied ferme à leur boutique pour pouvoir acheter le Grand Theft Auto.
Mais dans 4, quel monde vivons-nous?
Get a life!
Mais, en fait, pour les excuser un peu, eh bien, la boutique donne un prix bonus avec le jeu. Le prix bonus, on sait pas trop c'est quoi encore, mais bon, je sais pas quel prix bonus vaut deux semaines d'attente.
Sûrement la console pour jouer avec le jeu.
Ben oui, c'est même ça. Pas. Mais bon, en tout cas, moi, logiquement, je travaillerais deux semaines pour me l'acheter. Je sais pas, en tout cas.
Et si on a le système des magasins qui offrent un 10$ qu'on peut mettre en avance et on a la copie le jour même.
Tout à fait, exactement. Ouais. Il me semble quand même que ce jeu-là qui est sur le point de sortir a été extrêmement censuré partout dans différents types de pays. Là, ça s'annonce extrêmement... Ça aussi, c'est un autre moyen de faire du marketing, finalement, à l'heure actuelle. Ouais. Moi, une autre petite nouvelle rapidement pour vous aussi encore. Là, il s'agit en fait d'une enquête très sérieuse, scientifique, qui a été montée par un groupe d'études en médias, évidemment. De l'université de Gand, là on est en Belgique, eh bien messieurs, je vais vous dénommer trois catégories et vous allez me dire dans quelle catégorie vous vous sentez le plus. Il s'agit ici de catégories évidemment de joueurs. Nous avons les omnijoueurs convaincus, ce sont... Oui, il y a du monde qui lève la main, c'est le fun. Je vais quand même faire une description très rapide. Oui. Il s'agit de joueurs qui jouent pour des raisons de compétition et d'évasion et considèrent le jeu comme faisant partie de son identité.
Alors, ça, peut-être
c'est Christian. A dit oui, a dit non.
Ben, je suis moins compétitif, mais tout le reste.
Attendez, mais il existe encore d'autres catégories, je vais vous les énoncer. Il s'agit en fait du deuxième catégorie, c'est le joueur combatif convaincu. C'est-à-dire, lui, il recherche surtout les éléments compétitifs dans les jeux.
Non, pas moi. Non.
Moi non plus.
Il n'y en a pas parmi
nous. Christian a levé la main une autre fois.
Il reste encore deux catégories. Il s'agit du joueur d'évasion qui joue principalement pour être quelqu'un d'autre. Là, nous avons déjà un petit peu plus de winners.
Ben,
mais t'en reste encore un, Mathieu. T'as encore une chance. Oui, t'as encore une chance. Ne t'en fais pas. Il y a le joueur de loisirs pour qui les jeux sont purement un passe-temps.
C'est entre l'évasion et le passe-temps, moi, il me semble que ça...
Son cœur balance.
ça va ensemble, non?
En tout cas, c'est une étude très sérieuse qui vient de démontrer qu'en fait, il existait ces quatre catégories-là et puis que ces quatre catégories-là étaient le plus appréciées des joueurs, en tout cas dans lesquels ils se retrouvaient le plus souvent. Évidemment, il s'agit de joueurs assez jeunes. La moyenne d'âge va de 20 à 29 ans. Puis c'est à peu près toujours le même type de constatation, avec des grosses différences par rapport aux États-Unis, par exemple, parce que là, c'est une étude belge. Puis par rapport aux États-Unis, là, on voit vraiment une prédominance du PC. C'est quand même assez fou. Dans quel monde vivons-nous, le PC? Mais c'est déjà tellement vieux. Puis une autre grosse caractéristique qui est complètement différente d'ici, c'est que les party games comme Guitar Hero, eh bien, sont pas très appréciés en Belgique.
Ah non?
Okay. Ils font pas le party
ou je sais pas.
Ils boivent la bière belge.
Oui, c'est ça, ils boivent la bière, c'est suffisant. Et puis,
c'est tout ce que j'ai retenu de l'étude, mais je la trouve vraiment, juste pour cette comparaison-là, c'est quand même assez frappant. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Mathieu?
Oh, petite annonce en passant, pour ceux qui connaissent les producteurs de jeux Decipher Games, ils recherchent une fille pour être la Fight Club Girl. En fait, c'est une représentante qui va prêter sa voix et puis son image aux jeux Fight Club qui sont en train de mettre sur le marché. Alors, allez sur la page de Decipher Games et vous allez pouvoir peut-être devenir la Fight Girl Club. Il va falloir que vous déplacé en Caroline du Nord.
Commencer par envoyer une photo, j'imagine.
Oui, effectivement.
Mais c'est pas un jeu vidéo qu'on parle, parce que Decipher...
Ce que j'ai compris en le regardant, c'était vraiment un jeu de cartes. Oui. Peut-être qu'ils l'ont fait en jeu de cartes.
Ben, ils l'ont sorti en jeu vidéo, ça avait été un flop total. Donc, c'est la version jeu de cartes.
Ça se peut. Et en fait, ils ont un plan marketing tout à fait étrange. En fait, c'est un plan marketing inspiré de la pyramide. Là. Vous savez, le truc pyramidal. Là. En tout cas, c'est très gagnant. En fait, il s'agit d'avoir 6000 personnes qui vont avoir le privilège d'acheter le jeu. Et puis après ça, ces 6000 personnes-là vont pouvoir sponsoriser d'autres personnes qui vont acheter le jeu et ainsi de suite. Et ça va marcher avec des sponsors. Les 6000 personnes du départ vont recevoir des profits sur les ventes qu'ils ont opérées auprès de leurs sponsorisés.
En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. On va tout de suite écouter une légère, on va dire, une pièce musicale pour nous détendre. Et puis tout de suite après, on reçoit Vincent Langlois qui va nous parler du jeu
« Mon coach personnel, j'améliore mon anglais ».
C'est que ça sonne bien. Ça donne tellement le goût de l'essayer. En tout cas, restez avec nous. Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA. Il s'agit de puissance maximale.
Through the air, we have no tears. Oh, yeah, I feel that fire. folle et à tous mes voyages à Rouen-Oranda, j'écoute Puissance Maximale.
The Eye of Judgment.
Et oui, eh bien, comme à pratiquement chaque semaine maintenant, l'œil du jugement est parmi nous. Il s'agit de Vincent Langlois, celui qui fait trembler la totalité de tout ce qui se fait de maisons d'édition sérieuses à travers la province et puis dans le monde entier. Puis cette semaine, eh bien, il va nous évaluer un jeu qui se joue sur la Nintendo DS. Il s'agit d'un jeu qui vous permet d'améliorer votre anglais, si j'ai bien compris. Bonjour Vincent.
Bonjour, et oui, c'est mon coach personnel, j'améliore mon anglais.
Et je vois que ça va beaucoup mieux, en effet. Hein. C'est assez impressionnant bien. Comment tu as un bel accent.
Ça fait deux semaines que je l'utilise et je casse maintenant mon français. Alors c'est un jeu, en fin de compte, c'est un jeu éducatif que même les anglophones appellent du « edutainment ». Ce que j'ai vu sur les différents sites Internet sur lesquels je suis passé au cours des deux dernières semaines, c'est un jeu qui est disponible à 29,99 $ pour, bien sûr, la Nintendo DS, édité par Ubisoft, développé par Ubisoft. Et il peut se jouer de 1 à 2 joueurs.
All right.
Et oui, avec la DS de 1 à 2 joueurs. Premièrement, pour les gens qui sont plus ou moins habitués avec la DS, je dois vous dire que c'est une console qui s'ouvre en deux comme un livre, en fin de compte. Soit comme un livre ordinaire ou soit comme une revue qu'on ouvre dans l'autre sens. Et il y a deux écrans, un écran tactile et un écran, en fin de compte, sur lequel on voit différentes choses, soit du texte ou des animations. Et c'est très utile pour le jeu, bien sûr, parce qu'on utilise le stylet, qui est un petit stylo qu'on utilise sur l'écran tactile pour écrire des lettres ou faire tourner des différentes bobines ou quoi que ce soit.
Finalement, c'est une console qui est très adaptée pour ce type-là de jeu, des jeux éducatifs ou des jeux qui permettent de développer certaines attitudes.
La DS est vraiment impressionnante pour ça. On pense à Brain Age, des jeux comme ça sur lesquels on développe supposément nos qualités du cerveau.
Supposément, et, c'est ça que tu veux nous dire. Ben, enfin, compte, ça n'a pas marché pour toi.
Malheureusement, ça n'a pas encore fonctionné. Mais j'y travaille, Sébastien. Et il y a plein d'autres jeux aussi là, qui viennent sur la DS, là, des jeux d'enquête, des jeux justement d'avocat, des choses comme ça qu'on ne voit pas nécessairement sur les consoles ordinaires. Et mon coach personnel en est un qui est spécial. Donc, c'est un jeu pour améliorer sa maîtrise de la langue anglaise. Il est aussi offert en version « J'améliore mon français et j'améliore mon espagnol ». Nous, on a la version...
Y a-t-il la version allemande aussi?
Je ne l'ai pas vue.
Non?
Mais présentement, j'imagine qu'on se concentre sur les trois langues parlées en Amérique.
Oui, hein,
et on y va avec ça.
Oh, oui.
Bien sûr, c'est un jeu qui est concentré sur la maîtrise et l'apprentissage du vocabulaire. Il n'y a aucune expression orale, aucune compréhension de l'oral. C'est seulement du vocabulaire qu'on voit, donc des mots qu'on répète et qu'on assimile.
C'est pour l'écrit?
C'est pour l'écrit, oui.
Donc, principalement pour l'écrit. Est-ce que toi, tu es quand même assez doué en anglais?
Oui, ben moi, en fin de compte, je suis enseignant en anglais.
Bon, ben, donc, ça tombe bien, tu vas pouvoir nous parler exactement.
Enseignant au secondaire, alors...
Allons-y, fonçons, la chronique va prendre encore une toute autre allure.
Mais c'est ça, vas-y, il ne faut surtout pas oublier que c'est l'œil d'un enseignant qui parle. Tout d'abord, le jeu s'appelle « Mon coach personnel » en anglais. Et donc, ce n'est pas mon enseignant personnel. J'imagine qu'Ubisoft, en le faisant, ils se sont dit vraiment, c'est seulement un coach, c'est vraiment quelque chose de support, d'appui pour les gens. Donc, comme je vous disais, on améliore le vocabulaire en faisant des activités quotidiennes. C'est environ une dizaine, 10 à 15 minutes par jour qu'on peut faire. On augmente notre pourcentage de réussite. Et en fin de compte, on doit répondre à un certain nombre de questions à chaque fois qui augmentent selon le niveau qu'on atteint. On commence peut-être avec une vingtaine de questions. Moi, au point où j'étais rendu à répondre par jour à une centaine de questions. Ou bien des questions, en fin de compte, c'est tout simplement trouver des mots. Trouver le sens du mot, des choses comme ça. Donc, une centaine de mots par jour.
Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça, c'est quand même adapté au niveau où tu es rendu? Est-ce qu'il y a un test, un pré-test, par exemple?
Au début, il y a quelques mots. On nous demande de vérifier si on les connaît, tout ça. J'imagine que c'est ce qui fait qu'on classe les gens au départ. Mais moi, j'ai commencé quand même au niveau de départ, au niveau bas. Et bien sûr, c'est intéressant dans la mesure où on a 6 activités différentes qu'on peut utiliser, qui ne sont pas les 6 là au départ. On les débloque une fois, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu.
Ça, c'est le côté ludique.
Oui, c'est en plein ça. Donc, au niveau des activités, il y a un jeu qui s'appelle la lettre manquante. Donc, on a un mot du type funeral en anglais qui est indiqué. Et dans funeral, il manque le A. Et avec le stylet sur l'écran tactile, on doit faire un A pour compléter le mot. Donc, et il y a du temps là-dedans. On doit réussir à un certain nombre de temps pour gagner des points. Si on le fait en plus de secondes ou de minutes que ce qui est prescrit, on perd des points à la fin. On n'a pas les points maximum qu'on pouvait avoir.
Est-ce que ça atteint son but quand même pédagogique? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir un petit peu améliorer son anglais?
C'est certain que ça va aussi avec la volonté de la personne. Parce qu'en fin de compte, oui, on voit les mots. À la fin de l'exercice, on voit les mots qu'on a ratés et tous les mots qu'on a réussis également. Et on peut aller voir les définitions. Si la personne voit, bon, ben mon Dieu, j'ai fait 20 mots et j'en ai raté 4, ne prend pas la peine d'aller voir les 4 mots qu'elle a ratés et ne prend pas la peine d'aller voir quelle est la définition de ces mots-là, c'est certain que c'est presque inutile. Il faut vraiment que la personne soit consciente que oui, c'est un jeu, mais en même temps, si elle veut apprendre, elle doit faire un peu l'effort, comme dans tout apprentissage de langue, en fin de compte.
C'est développé par qui, ça? C'est Ubisoft?
C'est Ubisoft, oui.
Oui, c'est Ubisoft. Dis-moi, j'imagine quand même que tu as joué pendant pas de très nombreuses heures, parce que toi, t'es prof d'anglais, donc c'est pas forcément très utile pour toi. Ou est-ce que ça a quand même eu un intérêt quelconque?
Ben quand même, je l'ai essayé assez longtemps pour dire, j'en fais une évaluation, une chronique. Donc oui, ça a été 2 semaines, je l'ai fait presque tous les jours, là, pendant 2 semaines. Et bon... C'est certain que moi, pour une personne qui maîtrise bien l'anglais, là, je veux dire, il n'y a pas vraiment aucune...
C'est pas la clientèle cible.
C'est pas vraiment la clientèle cible. Pour une personne qui veut vraiment s'améliorer en anglais, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Si on veut s'améliorer en vocabulaire, ça peut être intéressant, mais souvent, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'expression orale, c'est d'être capable de se débrouiller dans différentes situations.
Tout à fait,
et
oui.
ce jeu-là nous amène seulement à voir du vocabulaire par différentes activités qui sont intéressantes. Là. Il y a la soupe d'alphabet dans laquelle tu as des lettres mélangées puis tu dois les remettre dans l'ordre avec une définition que tu vois dans ton écran du haut. Mm-hmm. Tu vois la définition en français, tu dis, bon, quel mot ça peut être, puis tu les remets dans l'ordre. Mm-hmm. Il y a le bloc-notes qui ressemble un peu à Tetris. Il y a, cette fois-ci, on prend le DS et on le met à la verticale. Donc, on a les deux écrans à gauche et à droite. Mmh. Et on a une série de mots, 5-6 mots à la gauche. Et on a des blocs Tetris qui descendent comme le jeu. Et on doit reformer les mots qui sont à droite en cliquant sur les lettres qui descendent, qui sont à gauche, je veux dire, en cliquant sur les lettres qui descendent à droite. Mmh. Et en un certain nombre de temps, tout compléter les mots qui sont à notre gauche. Donc, c'est intéressant.
Finalement, beaucoup de trucs ludiques qui permettent vraiment de rendre les choses plus agréables, mais oui, pratiquement mais... pas autre chose que du vocabulaire.
C'est
pas
seulement du vocabulaire.
Plus. Est-ce qu'il y a un peu de grammaire, un petit peu de, je sais pas moi, d'expression anglaise? Oui, c'est ça. Oui.
En fin de compte, ce qu'il y a, c'est seulement des mots. Moi, où je me suis rendu, c'était seulement du vocabulaire. Bien sûr, pour chaque mot, on a la définition. Les définitions sont en français pour que les gens comprennent bien. En fin de compte, c'est un jeu qui est intéressant aussi pour les comptes rendus de ce qu'on fait. On note notre performance, on voit la progression, on voit nos meilleurs scores, les statistiques, le glossaire. Ouais. C'est un des points forts, disons, du jeu. La présentation générale est intéressante, le menu est facile à utiliser, les jeux sont intéressants aussi, sauf que un autre point fort qu'il y a, c'est quand même qu'il y a quand même 16 500 mots dans la banque. Sauf qu'en fin de compte aussi, ça devient un point faible parce que de dire que je vais toutes les passer ou toutes les faire et je vais toutes les maîtriser, c'est un peu illusoire.
Mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme un dictionnaire?
Ben, pas nécessairement parce que tu vois pas, moi, j'ai pas vraiment réussi à retrouver tout dans le glossaire les mots que je voulais utiliser.
D'accord, parce que ça pourrait être utilisé, par exemple, t'es à l'étranger puis t'as envie de parler rapidement ou tu domines mal la langue et puis tu veux retrouver le mot rapidement.
En fin de compte, ce qui arrive, c'est que t'as le mot en anglais dans le glossaire puis t'as la définition en français. Tandis qu'un dictionnaire sur lequel tu cherches le mot dans l'autre langue et t'as la traduction en français directement, mot pour mot, je pense que c'est peut-être plus utile.
Puis maintenant, le moment de la cotation, combien tu lui donnes à ce jeu-là?
Ben, j'ai donné un 7 sur 10 parce que malheureusement, j'ai trouvé quelques petits points faibles, justement, au moment où on écrit les lettres. Parfois, le stylus ou le stylet, en fin de compte, l'écran tactile ne comprend pas toujours les lettres, malgré le fait que dans le petit livre qui accompagne le jeu, on nous indique bien comment faire le A sur l'écran, comment faire le M. On reste quand même qu'on est des habitués d'écrire à notre façon. Et quand les secondes défilent, puis que là, tu fais un A, puis il reconnaît un J à la place, un Q, tu te dis, mon Dieu, là, faut que je le fasse, le mot, parce qu'on embarque quand même dans le jeu, on veut vraiment réussir en moins de secondes possible. Ça devient un petit peu frustrant à la longue. Et c'est à peu près ça. C'est surtout au niveau de l'utilisation du stylet, malgré le fait qu'on ait un accompagnement qui nous dise bien comment le faire.
Donc, finalement, un jeu qui n'est pas si pire. À partir du moment où on prend pour acquis qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'avoir un jeu qui va vous apprendre à parler anglais, mais plutôt à vous faire développer votre vocabulaire en anglais. Je te remercie beaucoup, Vincent Langlois, pour cette chronique.
Il n'y a pas de quoi.
Et puis, eh bien, comme à chaque semaine, comme on présente un jeu, eh bien, on le fait tirer automatiquement. Donc, vous allez pouvoir gagner mon coach en anglais sur la Nintendo DS, développée par Ubisoft ici même à Québec, puis en appelant tout simplement au numéro que vous connaissez maintenant quasiment par cœur. Il s'agit du 529-90-26, 529-90-26, mon coach en anglais pour tous ceux qui ont envie de développer cet anglais qui peut être un petit peu balbutiant pour certains d'entre eux. En tout cas, moi, je serais content de l'avoir. Donc, vous allez pouvoir téléphoner tout de suite dans quelques instants, le temps pour moi de passer à la pièce musicale suivante. Et puis, évidemment, dans quelques minutes, on se retrouve avec Christian. On va dire Christian. Oui, c'est Christian Lacroix qui va nous parler de tous les substituts qui pourraient servir pour les grands balles, pour les personnes qui font des jeux de rôle.
Voilà, mais qui sont isolés.
Mais qui sont isolés, qui sont seuls chez eux, puis qui, voilà, qui tremblent. Donc, restez avec nous, puis n'oubliez pas de téléphoner ici même pour gagner le jeu. À tout de suite. We'll be right back.
Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Et oui, toujours sur les ondes de Puissance Maximale, c'est-à-dire le 88.3 CKIA, et puis vous êtes toujours en présence de tout ce qui peut se faire de geek ici à Québec, et en particulier, il y en a un aujourd'hui qu'on reçoit qui est comme notre maître à tous, mais notre maître geek. Il s'agit de Christian Lacroix. Je sais qu'il sourit. J'espère qu'il le prend bien. Ça va bien, Christian?
Ben oui, moi je suis un honneur d'être un geek et je porte la badge geek avec fierté.
On s'assume, on est tous des geeks différents, mais geeks pareil. Voilà.
Oh. C'est la revanche des geeks, hein, donc on est fiers.
On te salue, maître.
Voilà.
Puis donc, aujourd'hui, toi, Christian, tu vas nous parler de tout ce qui peut servir de substitut.
Oui, parce que en discutant avec des amateurs de jeux de rôle, on constate rapidement que souvent les gens sont frustrés parce que ils trouvent pas de groupe à leur goût, ils réussissent pas à garder un groupe là constant sur la longue durée. Et donc souvent on a des longues périodes où on joue pas, tout simplement parce que les gens déménagent, les gens aussi on prend de l'âge un peu, donc plus de responsabilités, la famille qui embarque, etc. Donc on perd des joueurs. Et voilà. Donc quoi faire pour aller chercher un peu cette caractéristique-là des jeux de rôle, qui est bien sûr l'interaction et la liberté totale. Bon, évidemment, vous ne retrouverez pas ça dans la plupart des autres types de jeux. Vous allez retrouver certains avantages, certains éléments, mais pas tous. Mais en tout cas, je veux juste, pour la première chronique, là, ça va être une série que je lance aujourd'hui.
Oui, mon Dieu. Ouh.
Donc là, je vais juste un peu placer la table, comme mettre la table, comme on dit. Je vais comme y aller par grande catégorie, les caractéristiques. Puis ensuite, dans d'autres chroniques, ce que je vais faire des critiques dans chaque section. Là. Donc, par exemple, des jeux de plateau, ben, je vais faire la critique de 2-3 jeux de plateau, puis ainsi de suite. Donc, premièrement, justement, les jeux de plateau. Bon, il y en a beaucoup qui sont sortis dès les années 80. Il y avait eu Talisman, depuis, il y en a eu plein. Maintenant, il y a Runebound, il y a Descent, mon Dieu, il y a HeroQuest.
Ah oui, HeroQuest, je me souviens d'HeroQuest, c'est vieux ça.
Oui, ouais, le vieux HeroQuest. Bon, il y en a plein, bref, qui sont sortis de ce type-là. Bon, ça, l'avantage qu'on retrouve, qui ressemble un petit peu à l'effet jeu de rôle, c'est en groupe. On se retrouve autour d'une table, en groupe, donc on peut rigoler les chips, la liqueur, ça, on retrouve ça. Les petites blagues à côté, la camaraderie, on retrouve ça.
Finalement, c'est juste des RPG, mais sur plateau. Là. Il s'agit juste d'aller se balader dans une caverne et puis d'essayer de rencontrer des monstres errants. C'est un peu toujours la même stratégie, finalement.
Oui, voilà. Dans le fond, c'est ça. Ça donne une impression d'un jeu de rôle, dans le sens que, oui, on incarne un personnage, mais souvent qui est comme pré-généré. Et c'est des archétypes, souvent. Souvent, c'est médiéval fantastique. Ça va être l'elfe, voilà, le nain bourru. Bon. Et on n'a pas vraiment l'occasion d'interpréter ce personnage-là. Hein? Donc, c'est tout simplement, on le fait évoluer sur le plateau.
Mais rien ne t'empêche de l'interpréter pendant que tu fais déplacer ta petite figurine.
Absolument, absolument. Sauf que souvent, les joueurs de plateau, ils vont te regarder bizarre si tu commences à jouer ton... ouais. À moins que tu aies imbibé beaucoup d'alcool. Puis ça, on va en parler peut-être. Hein,
exact, c'est
vrai. De l'alcool tantôt et
Faut-il de l'alcool pendant les jeux de jeux de plateau de ce type-là? Sûrement, finalement. C'est ça qui me
On pourra en reparler tantôt un peu plus en détail. Donc, ce côté-là, c'est très fort. Par contre, ben, c'est ça. On ne peut pas vraiment interpréter d'une façon... On ne peut pas approfondir son personnage. On s'entend, là, il y a un objectif précis. On a des règles aussi très strictes qu'on a aussi un peu dans le jeu de rôle, mais souvent, le maître de jeu va se donner un peu plus de liberté, va tenir compte des circonstances. Et voilà. Donc, mais c'est quand même... Ça peut être un bon substitut. Mais encore là, ça prend un groupe. Fait que si vous êtes en Alaska, vous êtes tout seul, ben pas de joueurs, ben, ça règle pas votre problème.
Mais tu peux jouer en ligne alors à ce moment-là avec ton ordinateur.
Ouais, ben c'est ça. J'arrive aux ordinateurs parce que ça, c'est génial. Hein. Donc, il y a moyen de jouer en ligne de façon traditionnelle, c'est-à-dire vraiment là, les jeux de rôle où donc, ça peut être par exemple par forum. Aussi, il y a des play by email là, qu'on retrouve. Donc, c'est par courriel. Mais le problème, c'est que c'est interminable. Donc, il faut tout écrire dans le détail. Même comment ton personnage... souvent, c'est très détaillé. Hein. Donc, je prends telle position, je fronce les sourcils, mon personnage. Et ensuite, je déclare de tel ton. Alors, il faut tout décrire. C'est très extrêmement lent. Et il faut attendre la réponse de l'autre, des autres. Tout le monde. Alors, moi, j'ai essayé personnellement. Puis ça, moi, non, vraiment. Là,
tu parles le fil assez vite.
Un combat qui prend 2 semaines, j'imagine que...
Oui,
Oui. Ouais, ben souvent, c'est au maître de jeu à accélérer la patente, mais c'est pas évident. Puis, mais ce qui est le fun, c'est que moi, je l'avais essayé, puis on jouait, il y avait des Australiens, des Anglais, je pense qu'il y avait un Japonais, donc c'était vraiment, ça c'était spécial, l'ambiance.
Bon. Mais là, on est très très loin des RPG informatiques récents, là. C'est vraiment old school, ce que tu es en train de nous présenter.
Non, mais ce que je vous parle, c'est ça, c'est vraiment là, du traditionnel, mais par le truchement là, des ordinateurs qui nous permet finalement de combattre la distance. C'est pour les joueurs isolés. Mais c'est ça. Ça peut être une solution, une extrémiste, mais moi, en tout cas, ça ne m'a pas emballé généralement. Donc, et il manque aussi l'expression corporelle, tout ça, là-dedans. Ensuite, oui, si on en vient, oui, on continue sur les PC et les consoles. Bon, évidemment, il y a plein de jeux. C'est une catégorie de jeux, hein, les RPG, les jeux de rôle, qui est assez populaire quand même. Il y a des gros titres qui sont sortis. On parle d'Oblivion récemment. Ben, il date déjà de deux ans.
Oui, oui.
Deux ans, mais quand même, qui est encore très jouable, qui est très, très beau. Il y a eu The Witcher, il y en a plein. Bon. La console aussi, il y a la série Final Fantasy, il y en a plein comme ça. C'est très différent en passant. Hein. Sur les consoles, les jeux qu'on retrouve souvent, c'est inspiré des mangas. Souvent, les personnages sont très typés. Tu incarnes celui-là, puis t'as pas vraiment de choix, dans le fond. Là. Peu importe, t'arrives pour discuter avec des villageois, t'as deux choix, puis ça revient toujours au même. Donc, t'as pas l'impression d'incarner puis d'avoir une liberté. T'en as pas. Et comme maquiller ta liberté. Et les combats aussi sont assez... En tout cas, moi personnellement, ça m'a toujours déçu, mais c'est une question de goût, là. C'est sûr, il faut pas. Bon, parlons par contre des jeux de PC, des jeux de rôle PC. Ah, là, par contre, il y a deux formes, évidemment, les jeux solo et des jeux des MMO. Hein, donc,
Massive
Multiplayer Online. Ça, c'est évidemment, c'est majeur, ce phénomène-là. On parle de World of Warcraft, 9 millions de joueurs. Donc, on peut pas, là, c'est pas minime comme phénomène. Bon, moi je l'ai essayé un peu et je vais le réessayer bientôt avec Warhammer Online qui va sortir à l'automne. Et j'ai déjà commandé la version là, du collectionneur. Je suis prêt. Il m'a juste à changer de machine pour être prêt. Bon, bref. Moi, en tout cas, je suis pas convaincu non plus parce que moi, j'ai l'impression, là, pour l'avoir essayé, ce que ça m'a laissé comme impression, c'est que c'est un paquet d'individus qui pensent juste à augmenter leur personnage, ils courent partout, puis dans le fond, il y a pas autant de monde que ça. Moi, j'essayais de faire de l'interaction, tu sais, j'arrêtais, hey, bonjour, toi, un beau chapeau, tu sais, la personne. Bref, je caricature, mais tu sais, j'essayais de puis là, finalement, tu reçois des monolignes en voulant dire, hey, dégage, connard, tu es le noob, tu sais. Un peu. Donc, c'est ça. Moi, c'était mon expérience. Par contre, ça dépend vraiment des groupes sur lesquels tu tombes, etc. Il y a moyen d'avoir une expérience, mais de jeu de rôle, mais c'est pas pareil parce que la distance et l'anonymat fait que il y a des gens qui agissent. Qu'il ne ferait pas. Si tu l'avais devant toi, là, au bord de la table, il ne dirait pas ça. T'sais. Mais là, t'as l'impression que c'est un kid de 10 ans américain. Là.
Juste au niveau des communications, Christian, là, quand tu communiquais avec les gens en ligne avec ton PC, est-ce que c'était par clavier ou c'était par micro? Parce que maintenant, c'est certain qu'il y a beaucoup de jeux qui sont encore communication par clavier.
Oui, c'est par clavier.
Mais les jeux maintenant se font avec micro et les gens prennent l'habitude avec ça. C'est beaucoup plus facile, plus simple, plus rapide. Donc, les gens délaissent le clavier là, dans un sens.
Et puis, on peut faire du replay si on veut grâce au micro. Là, c'est ça qui est intéressant.
Oui, oui. Puis le micro, c'est ça, j'avoue que c'est génial parce qu'au moins, tu peux avoir le ton de la voix, etc. Puis là, oui, ça, c'est un gros point.
C'est sûr qu'il faut maîtriser aussi la langue dans laquelle parle ton adversaire.
Aussi.
Oui, il y a ça. Puis il y a un autre phénomène tordant aussi, c'est qu'il y a énormément, vous savez, il y a une industrie en Chine hein, où les gens prennent tu leur donnes ton compte. Puis pendant que tu travailles ou que tu dors, eux autres, ils prennent le relais, ils se branchent, ils prennent ton personnage, puis ils ramassent de l'argent. Ils font du farming, qu'on appelle. Fait que ça, c'est vraiment drôle. On les reconnaît parce que eux autres, ils t'ignorent. Ils font juste ça à répétition des espèces de quêtes super payantes. Là. C'est des robots, c'est des machines. Puis souvent, c'est des Chinois qui connaissent même pas l'anglais. Là, tu leur parles, puis... Et il y a beaucoup de plaintes de ça. Les gens disent, voyons, ça devrait
Qu'est-ce
pas être...
travaille, hein, c'est chinois, c'est incroyable.
C'est une industrie énorme.
Hein, oui, hein, c'est assez impressionnant. Mais dis-moi, finalement, si je comprends bien, il n'y a absolument rien qui remplace les jeux de rôle.
Ben moi, c'est ma conclusion un peu. Par contre, je disais, juste pour finir, les jeux PC, il y en a eu des classiques. Moi, Planescape Torment, par exemple. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont
Magnifique.
Magnifique. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est un bijou. Par contre, on peut développer le personnage comme on veut. Et moi, à la fin, j'ai pleuré. Donc, c'est... Ah non, mais hein? Quel...
est-ce que, non, est-ce que tu
c'est
peux...
Pratiquement, c'est venu me chercher. Alors, bref, il y a moyen d'avoir des expériences très fortes en, avec des jeux de PC.
Est-ce que tu peux rappeler le nom du jeu qui t'a fait pleurer?
Oh mon Dieu, c'est Planescape Torment. C'est un jeu qui se trouve maintenant qui coûte quoi de, peut-être 15$ ou il est vraiment pas cher maintenant. Et l'avantage, c'est qu'il fonctionne sur les machines un peu plus anciennes. Là. Puis c'est, mais c'est un chef-d'œuvre vraiment là, à tous les niveaux, je pense.
Oh mon Dieu.
Qui l'ont joué. Faut
est-ce
s'accrocher.
Est-ce que tout le monde est d'accord sur autour de la table?
Absolument. C'est un magnifique jeu. Ça n'a pas de bon sens.
C'est ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, ben, il va falloir absolument l'essayer. Là. C'est génial.
C'est pas des gros graphiques, là, mais il faut que tu rentres dans l'histoire. C'est magnifique.
Oui, super.
Est-ce qu'il supporte Windows Vista? La question.
Comme tous les jeux. Non.
Non, je sais pas. Sûrement. Oui. OK, donc ben voilà, ça fait le tour un peu des grandes sections que je voulais présenter, puis je vais aller plus dans le détail dans mes prochaines chroniques.
Ce qui veut donc dire que dans quelques semaines, Christian va nous présenter, ça sera quoi? Qu'est-ce qui peut être autre chose qu'un jeu de... Ah bah oui, il y a des jeux de cartes, des jeux de figurines.
Ben, non, mais en fait, c'est que je vais prendre chaque catégorie, puis je vais prendre des cas précis.
Mon Dieu, nous allons rentrer dans les détails dans les prochaines semaines. Attention, accrochez-vous, messieurs, mesdames, ça risque d'être assez impressionnant. Merci beaucoup, Christian, pour cette chronique-là. Juste le temps de peut-être écouter quelque chose qui m'a été conseillé par un de nos auditeurs, parce que nos auditeurs nous adorent et nous écrivent et nous téléphonent et puis viennent même nous voir pour nous dire que, eh bien, ici, il s'agit de The Saga Begins. Il s'agit de Al Yankovic, celui qui fait des satires à n'en plus finir sur tout et sur n'importe quoi. Il est très, très drôle. Et puis là, il s'agit bien d'une satire sur... de Star Wars, l'épisode numéro 1. Donc, je vous laisse tout de suite avec ça. Juste le temps pour nous d'aller rejoindre Kevin Labrec, qui est déjà avec nous, là, mais qui est déjà depuis un petit bout maintenant, puis qui va nous parler de quoi?
Je vais vous parler comment faire des magnifiques costumes pour les grandeurs nature.
Et oui, je sais que tu nous avais déjà parlé comment faire des magnifiques épées en mousse pour les grandeurs nature. D'ailleurs, j'en ai une chez nous maintenant grâce à toi. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve tout de suite après la pause musicale. Et puis, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA. C'est Puissance Maximale.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas. Then met Jar Jar in Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the Force, they say. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Well, I know he built C-3PO, and I've heard how fast his pod can go. And we were broke, it's true. So we made a wager or two. He was a prepubescent Like to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died, some ships blew up, and some pilots fried. A lot of folks were croaking, the battle droids were broken. And the Jedi I admire most met up with Darth Maul, and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi.
Ici Franky.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Et oui, toujours sur les ondes de CKIS, c'est Puissance Maximale, au micro Sébastien Léonard, et je rejoins immédiatement Kevin Labrec, qui est notre spécialiste des grandeurs nature. Aujourd'hui, il va nous présenter bien des façons extraordinaires de pouvoir faire des...
costumes.
Des costumes pour les grandeurs nature, mais c'est vraiment fantastique.
Oui. Parlant de costumes, vous êtes en beauté aujourd'hui, magnifique t-shirt.
Et merci, tu vas me faire rougir, c'est incroyable, hein, c'est vraiment fort. Oui, j'ai un t-shirt de pour tous les auditeurs qui ne voient absolument pas, mais j'ai un beau t-shirt de la Dernière Alliance. Merci beaucoup.
Ah ben oui, Dernière Alliance.
En fait, il est trois fois comme moi. Ça va me servir, ça va être très pratique comme pyjama.
Ouais, c'est un gilet, c'est rentable. On peut rentrer trois personnes dedans, on part avec ça.
Puis donc, aujourd'hui, tu ne vas pas nous présenter évidemment des t-shirts, tu veux nous présenter des façons peut-être faciles et économiques de faire des costumes pour aller se balader dans la forêt.
Ben oui, surtout très économique. On va commencer d'ailleurs par les banques d'endroits où est-ce que vous pouvez rechercher pour aller trouver vos items pour fabriquer vos costumes. Les greniers des grands-parents, les greniers des parents, le garage de papa, les marchés aux puces. Vous pouvez trouver des objets merveilleux là-bas, des colliers, des bijoux, plein de choses.
Chez Emmaüs, c'est incroyable, j'imagine.
Emmaüs, c'est incroyable. Les fourrures, tout est là-bas, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme une place où est-ce qu'ils vendent des objets pour faire du GN.
Puis vous pouvez trouver aussi des objets que ça ne vous dérange pas de transformer, de détruire ou de découper. Alors, j'imagine que c'est bien pour ça. Là. Ça ne coûte pas cher.
Mais faut-il être un couturier pour faire des costumes?
Et pas couturier, c'est pas une obligation, c'est pas prérequis, mais... avoir une mère qui coud ou une sœur ou quelqu'un dans la famille.
Si vous n'êtes pas un couturier, vous pouvez toujours avoir une blonde qui sait le faire. C'est ça que je comprends.
Ou le montrer à votre blonde ou y acheter une machine à couture. En tout cas, bref, pour commencer d'abord par le choix de tissu pour les costumes, essayez d'éviter les jeans ou les culottes ou les vêtements pétants, là, le linge dans le fond.
Pantalon cargo.
Les Elfinger, Tony Elfinger, ça fit pas?
Non, et pas les beaux jeans bleu ciel détendus avec des motifs de flammes rouges et côtés, des trucs comme ça.
Avoir une grosse marque avec un crocodile sur le côté non plus, ça marche pas.
Non, c'est assez évité, ça, dans le fond. Fait qu'il faut aller chercher des tissus un peu rudimentaires, si on veut, des couleurs un peu pas fades, là, mais des vieilles couleurs. Là.
La jute, là, du brun, beige, j'imagine.
La jute, brun, beige, de la vieille...
Des poches à patates, quoi, finalement.
Peut-être pas si vous jouez le rôle d'un noble. Il y a moyen d'avoir des beaux tissus, de la soie.
Ah.
La soie pour faire une belle robe ou des trucs comme ça pour les femmes qu'on recrute, d'ailleurs. Ça en prend beaucoup. Et puis, tu sais ça, aussi, ben, la fourrure, c'est toujours des accessoires de costumes qui rendent des costumes très beaux. Une belle fourrure. Donc ensuite, pour les souliers, pour ce qui est des souliers, essayer d'éviter les Nike ou,
ou la,
les, bottes, les bottes à douille, comme on appelle par chez nous, les bottes à haut. Là.
Des sandales, ça fait la job, j'imagine.
Des belles sandales en cuir, ben ça fait la job merveilleux.
Des sandales en cuir ou alors des vieilles bottes, des bottes d'Indien, les mocassins d'Indien.
Oui, les mocassins, c'est super, mais c'est vraiment cher. C'est... Puis Emmaüs, des fois, ils en ont des bottes d'Indien comme ça. C'est, elles sont vraiment pas chères, là. C'est juste qu'il faut que tu trouves à ta taille, là.
Bon, mais ben... là, il y a un aspect pratique. Par contre, il faut que ce soit des souliers qui soient moindrement confortables pour se promener en forêt. Je sais pas si les mocassins, ben, par définition, j'imagine que ça doit être confortable pour la forêt, mais...
Oui, c'est très confortable, imperméable.
Ouais. Mais là, j'imagine que si j'ai envie de me déguiser en monstre, c'est complètement une nouvelle donne.
Nu-pied, pas de vêtements.
Tout nu. C'est là que t'es en train de me dire que je suis un monstre tout nu, quoi, c'est ça. Parfait.
Un minimum de vêtements.
On ne pas le dire.
Il y a des petites règles sur certaines grandeurs nature, dont Dernière Alliance, d'ailleurs, qu'on dit de... En fait, d'avoir au moins des boxeurs sur le terrain, là, c'est un must. Là, au moins ça, minimum.
Donc, il y a quand même des règles là-dessus, c'est bon à savoir. Il ne s'agit pas d'un club de nudistes, messieurs.
Juste une petite fourrure pour cacher le sexe, je pense que ça peut déjà être acceptable.
Oh, oui, Conan, il avait quand même du prestige, même s'il y avait juste une fourrure au niveau...
Tout à fait. Ben, dis-moi, ça me donne vraiment le goût d'aller essayer. Mais en tout cas, si je comprends bien, s'il s'agit de vraiment faire beaucoup de magasinage dans tout ce qui se fait de brocante et autres lieux de friperie.
C'est ça. On recouvre les souliers de cuir, puis on fait en sorte d'essayer de l'air assez primitif, le plus primitif possible.
Bon, ben, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Kevin. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous restait aujourd'hui. Une heure, ça passe tellement très rapidement qu'à la limite, on est en train de se demander, bien, c'est déjà fini.
C'est triste.
Eh oui, c'est triste. C'était Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. On a tous été vraiment contents de pouvoir passer cette heure en votre compagnie. J'espère que vous avez appris énormément de choses passionnantes sur le monde merveilleux et passionnant des geeks que nous représentons tous. Aujourd'hui, j'avais Kevin Labrec, j'avais Vincent Langlois, j'avais Mathieu Place qui était avec nous, puis Christian Lacroix qui est devenu notre gourou pour la journée et qui devrait le rester pendant tout le reste de la semaine. En parlant de la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, c'est-à-dire 17h sur les ondes de CKIA le lundi. Et puis, ça sera pour une nouvelle émission de Puissance Maximale. On vous souhaite une excellente semaine, surtout restez en ondes. C'est l'émission Homologue qui s'en vient. Puis, n'oubliez pas que si vous avez envie d'en apprendre plus sur notre groupe, vous pouvez toujours aller taper www.puissancemaximale.com et nous ferons un plaisir de vous donner des informations supplémentaires. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Bonne semaine. Oui. Jouez bien.
Jouez
prudemment.
Oui, jouez prudemment, ça c'est très important. Allez, salut. Bye bye. À la semaine prochaine. Little harmonica.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broadsword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's the ending. Fighting with the legends of yore, it's D&D. Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.
And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know.
Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.
And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend.